Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Cette année encore, des noms d'entreprises bien connus, Uber et Deliveroo, sont au cœur de l'actualité, actualité économique et puis aussi actualité de nos vies quotidiennes avec le confinement. Et pour en parler, je suis en compagnie de Frédéric Fréry. Bonjour, vous êtes professeur de stratégie à l'ESCP et on vous doit notamment Sans idées impertinentes pour mieux manager aux éditions Harvard Business Review. Avec tout d'abord une question, Frédéric Fréry. Qu'est-il arrivé de ce que l'on appelait la nouvelle économie, puis c'est devenu l'économie des plateformes? Il y avait des promesses. Ces promesses ont-elles été tenues?
Alors, nouvelle économie, c'est une expression qui fleure bon le XXe siècle, en fait, hein, parce que c'est une expression qui date de la fin des années 90, quand on a parlé de la première bulle Internet. Il faut voir qu'il y a eu une succession de générations, c'est-à-dire que ces entreprises, elles sont nées au départ d'Internet, bien sûr, mais Internet, c'est une vieille techno, hein, ça date des années 60, ça a servi à peu près à rien pendant 30 ans, et ça a vraiment décollé avec l'invention du web, c'est-à-dire le fait que vous pouvez cliquer sur des liens pour aller sur des sites. Avant, il fallait taper des codes, c'était insupportable. Et le web, ça a été inventé en Europe. Pas aux États-Unis, ça a été inventé en Europe, en Suisse, au CERN, à Genève, au début des années 90. Et la première vague, en fait, d'entreprises qui s'est appuyée sur cette facilité de grand public d'aller sur Internet, ce qui n'était pas possible avant, c'était des entreprises, évidemment, comme Google ou Facebook. Et c'est ça qui a créé la première bulle, et donc ce qu'on a appelé au départ la nouvelle économie. Et certaines des entreprises qui ont été créées à l'époque existent toujours, hein, donc comme Facebook ou Google, par exemple. D'autres, on en parle beaucoup moins, comme Yahoo, et puis d'autres encore, on n'existe quasiment plus, hein, comme AOL, ou des choses comme ça. La deuxième vague, ça a été lorsqu'une autre technologie s'est rajoutée au web, qui a été le smartphone. Donc ça, c'est milieu fin des années 2000, donc avec le lancement de l'iPhone en 2007. Et là, il y a eu une deuxième vague d'entreprises qui s'est appuyée sur le fait, cette fois-ci, qu'on pouvait tous avoir un accès Internet dans la poche. Et là, ça a été des entreprises comme Uber, comme Twitter, comme Airbnb. Et elles ont créé effectivement ce qu'on a appelé ensuite les plateformes, c'est-à-dire qui permettraient d'avoir en permanence l'accès à des prestataires où qu'on soit dans le monde, par exemple pour avoir une voiture, pour se faire livrer quelque chose ou pour être hébergé.
Et il y avait à l'époque une promesse qui était la possibilité pour beaucoup de personnes, souvent des personnes non qualifiées, de devenir des entrepreneurs, de créer leur propre entreprise, micro-entreprise. C'est quelque chose qui, par exemple, avait été particulièrement évoqué lors de la précédente campagne présidentielle. Et aujourd'hui, avec le confinement, notamment le modèle de Deliveroo, tous les livreurs à vélo, eh bien, ce modèle-là, il se voit de plus en plus, Frédéric Fréry.
Alors, il se voit de plus en plus, effectivement, parce que c'est ce qu'on appelait l'ubérisation, en fait. Hein. C'est le mot qu'il y a derrière tout ça. Donc, on est bien d'accord, ça s'est lié à la deuxième vague, celle qui a été construite sur le smartphone. Ça concerne beaucoup moins quand même des Google ou des Facebook. Hein. Ça concerne essentiellement ceux qui sont nés du smartphone, Airbnb, Uber, etc. Et l'idée, en fait, qu'il y avait derrière, c'était que des entreprises, comme on les connaît depuis deux siècles, qui ont des salariés, qui ont des actifs, allaient être remplacées par des plateformes numériques qui mettent en relation des clients, vous et moi, et des prestataires qui sont des auto-entrepreneurs, qui sont des indépendants. Et la plateforme se contente de mettre en fait les uns et les autres en relation, mais elle-même, elle ne salarie personne et elle n'achète pas les actifs qui permettent, les voitures par exemple, qui permettent à ses chauffeurs de travailler. Et donc effectivement, l'idée qu'il y avait derrière, c'est qu'on pouvait aller sur une sorte d'économie différente où on n'aurait plus de salariés, mais on aurait des indépendants, un monde d'indépendants, un monde de freelance en fait, où on se contenterait d'offrir ses services sur ces plateformes et des clients viendraient nous voir. Et alors ça s'est énormément développé depuis. Hein. On estime que maintenant ça a atteint 5 ou 6% de la population active européenne. Dans certains pays en Europe, on en est à 8 ou 9%, comme en Italie ou en Espagne. Et ce qui se passe depuis à peu près un an ou deux maintenant, c'est que ça a pris une telle ampleur que ça finit par effrayer quand même un certain nombre d'autorités qui se disent « Oui, mais si tous ces gens deviennent indépendants, comment est-ce qu'on va financer le système social, parce qu'ils payent des charges sociales qui ne sont pas du tout les mêmes que les salariés, et surtout l'employeur, parce qu'il n'y en a pas, ne paye pas de charges sociales d'employeur. Donc ça risque de ruiner une partie du système social, et donc il y a des coups de boutoir de plus en plus importants et qui sont tout à fait compréhensibles pour essayer de faire rentrer dans le rang ce système. Et parmi les dernières péripéties qu'on a eues, donc, ça a été par exemple en Grande-Bretagne, donc on a une loi a décidé de faire passer les indépendants qui travaillent pour Uber à un statut qu'on appelle travailleur, worker, qui n'est pas exactement salarié, mais qui ressemble un petit peu. En Espagne, et cette fois-ci, ils sont salariés véritablement, et donc Uber doit payer des charges sociales d'employeur. Et tous les pays commencent comme ça à essayer de faire évoluer ça.
Même chose pour des livreurs également.
C'est la même chose pour les livreurs.
À Paris, qui serait employé ? C'est pas une décision de justice.
Oui, là c'est en fait une des entreprises qui a décidé de le faire. Hein, c'est Just Eat, qui est maintenant hollandaise. Et eux, ils ont annoncé. Alors c'est assez intéressant Just Eat parce que jusqu'ici leurs livreurs, en fait, ils sous-traitaient ça à une société qui s'appelle Stuart, qui elle-même faisait travailler les auto-entrepreneurs qui étaient des livreurs en vélo. Au passage, point intéressant, Stuart est une entreprise qui appartient à La Poste française. Et c'est elle qui utilisait ces auto-entrepreneurs en vélo. Et ils ont annoncé que ces livreurs en vélo indépendants, maintenant, ils allaient être recrutés, en fait, directement par Just Eat. Ils en recrutent 4500. Et donc, ils passent dans un système qui est un système de salariés. Alors, il y a une différence qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que ça, c'est de la livraison en vélo. Et donc, les actifs que vous devez, l'outil de travail que vous donnez à votre salarié dans ce cas-là, bah, au pire, c'est un vélo et au mieux, c'est un casque, un sac à dos et une parka. C'est pas du tout la même chose pour du VTC, pour de la voiture, parce que là, il faut lui donner une voiture. Et il faut voir que Uber, ils en sont maintenant à 4 millions de chauffeurs qui travaillent, les indépendants qui travaillent avec Uber dans le monde. Si jamais Uber avait à payer 4 millions de voitures, ce serait évidemment totalement intenable pour leurs finances. Déjà que leurs finances vont vraiment pas très bien, là, ce serait vraiment le dernier clou sur le cercueil.
Alors, justement, c'est intéressant parce que l'argumentaire d'Uber a consisté à dire depuis le début que, bien entendu, ces chauffeurs ne pouvaient pas être des salariés parce que le modèle économique ne le supportait pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant que le modèle économique va devoir le supporter, en tout cas dans un certain nombre de pays, Frédéric Frey ?
Alors, pour le VTC, je ne vois vraiment pas comment c'est possible du fait du prix de l'achat de la voiture. Très honnêtement, je vois pas comment ces plateformes auraient les moyens d'acheter 4 millions de voitures. Enfin, ça paraît totalement exubérant.
Mais si le prix de la course...
Ou alors il faut que le prix de la course augmente très significativement, effectivement. Alors,
ça veut dire que le prix de la course aujourd'hui, il est insuffisant.
Le prix de la course était
qui a été largement théorisé. D'ailleurs, je vous propose de le dire de manière plus précise.
Oui, faut comprendre que Uber, si on prend le cas spécifique de Uber, c'est une entreprise qui, depuis sa création, perd en moyenne à peu près un milliard et demi par trimestre. D'accord. Donc c'est un puits sans fond et qui est-ce qui permet à l'entreprise de continuer à exister ? En fait, c'est qu'il y a des investisseurs en permanence qui remettent de l'argent au pot. Ce qui est une forme d'entreprise capitaliste très étrange, parce que dans une entreprise normale, si j'ose dire, en tant que prof de stratégie, qui est-ce qui paye pour l'investissement ? Ben, comme son nom l'indique, ce sont les investisseurs. Et qui est-ce qui paye pour l'exploitation ? Ben, ce sont les clients. C'est les clients, quand ils payent, ben en fait, ils permettent de payer les salaires, de payer les charges, etc. C'est une question que j'aime toujours poser, d'ailleurs, dans les entreprises, aux salariés. C'est, je leur demande, mais en fait, qui est-ce qui paye votre salaire ? Et vous verrez, il y en a beaucoup qui répondent, c'est le patron. Ou alors, c'est le service des ressources humaines. Ben non, en fait, le seul qui paye le salaire, c'est le client. Et l'entreprise fonctionne comme ça, les investisseurs qui payent l'investissement et des salaires et des clients qui payent les charges et l'exploitation. Ben Uber, c'est très étrange parce que Uber, en fait, on paye pas assez quand on prend un Uber parce que Uber est très très largement déficitaire. Et en fait, qui est-ce qui paye pour l'exploitation chez Uber ? Ben, c'est les investisseurs aussi, c'est-à-dire que les investisseurs payent pour l'investissement et les investisseurs payent pour l'exploitation. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est une chose assez amusante, que quand vous prenez un Uber, en fait, qui est-ce qui paye vraiment pour votre course ? Ce sont les investisseurs de Uber, c'est-à-dire il y a quelques années encore, avant qu'ils soient rentrés en bourse, c'était des gens comme Goldman Sachs ou le fonds souverain saoudien. Et donc c'était assez amusant de se dire que quand on prenait Uber, c'était les Saoudiens et Goldman Sachs qui payaient.
Donc la course est subventionnée, donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour
les investisseurs.
Ouais. Alors de manière assez importante, il y a eu différents calculs, ouais. Tout cela est très controversé, mais on allait jusqu'à dire que 50% du prix de la course était pris en charge par les actionnaires, ce qui provoque une concurrence évidemment déloyale avec notamment les taxis, Frédéric.
Bien sûr. Alors, bien sûr, cela dit, les taxis profitent également de réglementations spécifiques. Ils ont le droit de faire de la maraude, c'est-à-dire de prendre les clients qui sont au bord de la rue. Ils ont le droit d'aller dans les aéroports spécifiquement pour des zones particulières. Ils ont le droit aux voies de bus. Enfin, ils ont un certain nombre d'avantages, et notamment également l'essence ou l'achat des voitures, que n'ont évidemment pas les VTC. Donc, évidemment, d'un côté, on peut dire que oui, il y a un financement par les actionnaires qui est pas normal du tout parce que les taxis n'en profitent pas. Évidemment, les VTC répondent oui, mais les taxis, ils ont aussi des avantages réglementaires que nous n'avons pas. Ça peut se discuter dans les deux sens, très honnêtement.
Et il y a malgré tout le prix de la licence qui, dans certaines villes comme Paris, pour les taxis, représente une barrière à l'entrée plus importante. Au-delà de ça, Frédéric Ferry, un service comme Uber et non rentable aujourd'hui. Deliveroo, est-ce rentable?
Alors Deliveroo, c'est pas rentable non plus. Hein. Deliveroo, alors c'est pas dans les proportions aussi gigantesques que Uber, hein. mais Deliveroo encore l'an dernier a perdu un peu plus de 300 millions. Bon, pour un chiffre d'affaires qui est moitié plus petit que Uber quand même. Hein. Mais Deliveroo, une nouvelle fois, c'est de la livraison en vélo, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes logiques. On n'est pas dans la concurrence avec le taxi, avec des voitures, etc. On est sur quelque chose qui est finalement plus léger et qui peut être plus flexible. Je pense que la livraison d'ailleurs de repas est quelque chose qui peut devenir rentable. Le VTC tel qu'il existe à l'heure actuelle, ça me paraît beaucoup plus compliqué.
Tout peut arriver, il suffit que les prix augmentent, Frédéric.
Ah, il suffit que les prix augmentent, bien sûr, mais si les prix augmentent, quel intérêt on aura à prendre un Uber par rapport à un taxi?
Là, je parlais de la livraison à vélo de repas, par exemple. Si le service aujourd'hui est non rentable, c'est que les prix sont insuffisants, mais si les prix augmentent, est-ce qu'il y aura toujours autant de clients? C'est ça la question.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces plateformes sont ce que l'on appelle en économie des marchés multifaces. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs clients. Si vous regardez bien Deliveroo, il a comme client vous et moi quand on commande un repas, mais ils ont aussi comme client les restaurateurs qui sont censés aussi payer pour la livraison. Et dans une certaine mesure, on peut aussi considérer que les livreurs sont là aussi des sortes de clients qu'on doit attirer. Et l'argent, il peut venir des différents clients. Ça peut venir que vous allez payer plus, ça peut venir que le restaurateur va payer plus, ça viendra, je l'espère évidemment pas, que les livreurs sont payés moins. Mais en l'occurrence, à l'heure actuelle, les restaurateurs payent extrêmement peu. C'est-à-dire que ce que font les différentes sociétés de livraison, donc Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, c'est qu'ils se battent pour avoir le plus grand nombre de restaurateurs sur leur application. Et pour ça, ils font payer quasiment rien aux restaurateurs. Et puis nous aussi, on a des promotions en permanence, donc on paye quasiment rien non plus. L'idée, c'est de se faire la plus grosse part de marché, à la fois chez les restaurateurs et chez les clients et chez les livreurs, avec cet espoir qu'une fois qu'on sera le plus gros, là, on pourra remonter les prix, et dans ce cas-là, on pourra devenir rentable. Ce qui, à mon avis, est un espoir qui est un petit peu discutable, parce que c'est quand même une industrie dans laquelle il y a très peu de barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'on peut créer une nouvelle société de livraison assez vite, en fait. Les technologies qui permettent de le faire, maintenant, on les connaît. Il y a plein de gens qui sont capables de les développer. Après, c'est une question de notoriété, essentiellement. Donc, c'est d'investissement publicitaire. Et tout autant on peut se dire que le plus gros, il peut être rentable au bout lorsque, une fois que vous êtes chez lui, vous pouvez pas le quitter, parce que dans ce cas-là, vous resterez avec lui et il pourra augmenter les prix. Par exemple, dans une certaine mesure, c'est ce que peuvent faire un Google ou un Facebook, parce que si vous avez toutes vos photos chez Google ou toutes vos photos chez Facebook et tout votre réseau d'amis chez l'un ou chez l'autre, partir ailleurs, c'est compliqué, parce qu'il faut transférer tout ça, il y a un coût de transfert qui est très embêtant. Franchement, l'historique de vos livraisons de repas et l'historique de vos trajets en VTC, vous vous en fichez à peu près de le perdre. Et donc, vous pouvez passer à la concurrence extrêmement vite. Et donc, la barrière qu'il y a à passer de l'un à l'autre est très faible. Et dans ces conditions-là, ça veut dire qu'un nouvel entrant, s'il met l'argent pour être suffisamment connu, il peut se faire une part de marché très vite.
Alors, vous dites qu'Uber et Deliveroo ne sont pas rentables. Il se trouve qu'à la faveur de la crise sanitaire, une autre entreprise est devenue extrêmement rentable, c'est Amazon, et encore plus rentable pour ses actionnaires, et en l'occurrence pour le premier de ses actionnaires qui est l'actuel dirigeant, Jeff Bezos. Et c'est une bonne manière de rappeler également qu'au début, Amazon n'était pas du tout rentable.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que il y a une légende, effectivement, qui dit qu'Amazon a perdu de l'argent pendant 15 ans. C'est pas tout à fait vrai. En fait, quand vous regardez les courbes d'Amazon, Amazon, c'est quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant. Hein. Amazon, depuis au moins 10 ans maintenant, leur courbe croise de 30% par an. Que ce soit le nombre de salariés, que ce soit le chiffre d'affaires, que ce soit la superficie d'entrepôt, c'est du plus 30% par an. Pour avoir une petite idée quand même, parce qu'il faut avoir ses ordres de grandeur, Carrefour, le plus gros distributeur français, a 400 000 salariés. 400 000 salariés, c'est ce qu'a recruté Amazon en 2020. C'est-à-dire que rien qu'en 2020, Amazon a cru de la taille de Carrefour. Et ils ont maintenant 1 million de salariés. Donc toutes les courbes croisent de 30% par an chez Amazon depuis à peu près toujours, sauf une, la rentabilité. La rentabilité, elle a toujours été à peu près indiscernable de l'axe des origines. Ils gagnaient quelques millions une année, ils en perdaient quelques autres l'année d'après, mais c'était toujours extrêmement proche de l'origine. Et ça jusque vers 2017. Depuis 2017, là, ça commence vraiment à décoller. Et vous avez raison, l'an dernier, ils ont fait un très très beau bénéfice de 21 milliards.
Mais d'où vient-il ce bénéfice?
Le bénéfice d'Amazon, maintenant, il vient essentiellement de l'hébergement. Ce qui est l'activité.
C'est ça qui est quand même assez étonnant, il faut l'expliquer aux auditeurs.
Hébergement, ça veut dire hébergement des fichiers, en fait. Vous en rendez peut-être pas compte, mais lorsque vous regardez une série sur Netflix ou lorsque vous faites une réunion sur Zoom, en fait, tout ça, c'est hébergé chez Amazon. Parce que Amazon, en fait, avait besoin, pour faire fonctionner son système, de beaucoup de serveurs et de beaucoup de bases de données, et donc de fermes entières, vous avez des serveurs. Et ça leur a donné une très grosse capacité, en fait, d'hébergement de données. Et Bezos, il a une règle interne chez Amazon qui est pas inintéressante. Il dit, ben voilà, chacune des activités d'Amazon, elle doit également avoir des clients externes. Elle ne doit pas travailler que pour les besoins d'Amazon. Et donc, il a dit à ceux qui s'occupaient de l'hébergement pour Amazon, vous devez aussi vendre votre service à l'extérieur. Et vu la taille gigantesque d'Amazon, ben, quand ils sont rentrés sur ce marché-là, eh ben, évidemment, ils ont pu proposer des services d'hébergement à peu près tout le monde dans des proportions gigantesques. Et ça, c'est très, très rentable. Parce qu'une fois que vous avez les serveurs, ben, après, vous pouvez... On a eu dernièrement l'épisode de OVH en France, hein, qui
un hébergeur.
Et voilà, un hébergeur, et on a vu les conséquences que ça a sur beaucoup de sites. Amazon, c'est ça, mais 10 fois plus gros.
Mais c'est quand même un peu étonnant, Frédéric Fréry, parce que ça veut dire que sur son métier de base, c'est-à-dire la livraison à domicile, Amazon ne gagne pas beaucoup d'argent, voire
Là encore, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que le résultat a toujours été nul, ça peut pas être le hasard qu'une entreprise pendant 10 ans a un résultat à peu près nul. C'est qu'ils ont un peu fait exprès pour qu'il soit à peu près nul. En fait, ce qu'a fait Bezos, c'est que il a réussi un tour de force. Il a expliqué à ses actionnaires, écoutez, c'est très simple, il y aura pas de dividende parce qu'en fait, moi, je ferai pas de bénéfice parce que je vais réinvestir la totalité de ce que je gagne dans la croissance. Et il a réussi à convaincre ses actionnaires de ça. Et pendant 15 ans, l'intérêt pour les actionnaires, ça a été d'avoir de la plus-value et pas des bénéfices. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rentable fondamentalement, ça veut dire qu'il ne dégage pas un bénéfice qui serait éventuellement, un, taxable, et deux, versable sous forme de dividendes à ses actionnaires.
On va voir également quelles sont les conséquences sociales de ces modèles-là et dans quelle mesure ceux-ci peuvent être amendable, Frédéric Fréry. Je rappelle que vous êtes professeur de stratégie à l'ESCP. Vous serez rejoint dans une vingtaine de minutes par Dominique Médal, professeur de sociologie et directrice du laboratoire de sciences sociales de l'Université de Paris Dauphine. 8h sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et pour parler de l'économie des plateformes, celle-ci qui est devenue très visible avec le confinement, je suis en compagnie de Frédéric Fréry, professeur de stratégie à l'ESCP. Vous avez notamment publié cette idée impertinente pour mieux manager aux éditions Harvard Business Review. Et je reçois Dominique Méda. Vous êtes en duplex. Bonjour Dominique Méda.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes professeur de sociologie, directrice du laboratoire de sciences sociales de l'Université Paris Dauphine et vous avez notamment publié « Les nouveaux travailleurs des applis » aux presses universitaires de France. Peut-être une réaction à ce que Frédéric Saez vient d'évoquer sur les différentes politiques écologiques possibles avant d'aborder le sujet des plateformes lui-même lié aux préoccupations écologiques. Dominique Méda.
Oui, volontiers. Ce que nous montre cette chronique, c'est que on a maintenant une nouvelle dimension de l'action publique qui rentre en compte, et donc une dimension qui était auparavant un peu déconsidérée, voire complètement négligée. Donc évidemment, ça rend l'action publique beaucoup plus compliquée. Il faut concilier cette nouvelle dimension écologique avec d'autres questions, et donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Quant à les 50 nuances de vert, oui, bien sûr. Bien sûr, elles existent aussi au niveau théorique. Vous avez par exemple la Deep Ecology qui nous dit qu'il n'y a pas de supériorité des humains, que les humains ne sont pas le couronnement de la nature, et puis une écologie qui reste, elle, beaucoup plus humaniste. Donc moi, je trouve que cette diversité n'est pas du tout ennuyeuse. Au contraire, ça y est, on rentre dans le dur et on va pouvoir travailler.
Alors maintenant qu'il faut travailler, il y a différentes manières de travailler et il en est une que nous avons évoquée tout à l'heure, Dominique Méda. Cette manière de travailler, c'est par le biais de l'économie des plateformes avec des questions qui sont inédites sur le plan social. Votre regard justement sur l'économie des plateformes?
Alors, j'ai entendu bien sûr le début de votre débat et je trouvais intéressante votre toute première question quand vous avez parlé d'une promesse non tenue. Enfin, vous avez demandé à Frédéric Fréry si la promesse avait été tenue. Il y avait en effet une très grande promesse à la fois pour l'usager d'accéder à des services plus facilement, mais aussi une promesse qui était faite aux travailleurs en quelque sorte, une promesse de liberté, d'autonomie, et qui reposait aussi dans une certaine mesure sur une critique, une remise en cause du salariat. Le salariat, ce serait devenu une forme de travail un peu désuète et tout le monde allait pouvoir devenir son propre patron. Eh bien, je crois qu'on peut dire, c'est un petit peu l'argument qu'on défend dans le livre collectif qu'on a écrit, que vous avez cité, Les nouveaux travailleurs des applis, on peut dire que cette promesse, elle n'a absolument pas été tenue et que d'une certaine manière, les travailleurs dont vous avez parlé, les chauffeurs Uber ou d'autres plateformes, les livreurs à vélo, sont tombés dans une forme de dépendance extrême à l'égard de ces plateformes qui les utilisent, qui les instrumentalisent, qui les exploitent véritablement. Hein. Et donc, on se trouve là dans une situation où les conditions de travail de ces personnes sont extrêmement dégradées et où il y a un risque. Hein. Frédéric Fréry disait que ces plateformes, elles essayent finalement de prendre le marché en baissant considérablement les prix. Et une fois qu'elles auront pris le marché, à la fois elles remonteront les prix, mais on peut penser aussi qu'elles augmenteront leurs commissions. C'est d'ailleurs, elles l'ont déjà fait. Hein. C'est ce qui a rendu les chauffeurs Uber fous à une époque, parce que on voit bien qu'ils sont complètement dans les griffes de ces sociétés, complètement dépendants à la fois quant aux méthodes de travail, mais également quant aux revenus qu'ils tirent de ce travail.
Oui, ça c'est effectivement une question qui se pose, Frédéric Fréry, parce que au début il y avait cette promesse d'autonomie, et puis cette promesse d'autonomie, elle a été combattu notamment en droit, parce qu'on a considéré qu'il y avait un lien en réalité entre ces plateformes et ces chauffeurs ou ces auto-entrepreneurs qui faisaient d'eux des salariés de fait.
Oui, enfin c'est l'idée, c'est de les requalifier en salariés effectivement. Alors ce qui est pas simple du tout. Hein. Effectivement, la Cour de cassation avait rendu un arrêt l'an dernier qui avait requalifié un chauffeur Uber en salarié. Et il y a à peu près, je crois, 180 000 chauffeurs qui travaillent avec Uber en France. Et depuis, on a eu, je crois, 400. Jugements qui d'ailleurs ont versé dans un sens ou dans l'autre. Hein. Parce qu'en fait, on ne sait jamais très bien auprès de qui il faut aller plaider. Est-ce que c'est les prud'hommes? Est-ce que c'est un salarié? Est-ce que c'est le tribunal de commerce? Parce que non, c'est une relation commerciale. Enfin, tout ça n'est pas très clair. Mais si vous regardez bien, 400 sur 180 000, c'est pas énorme. Et il y a une chose qui est très intéressante dans ce qui vient d'être dit par Dominique Méda, c'est que ils sont devenus dépendants. Oui, mais il faut bien comprendre que s'ils sont salariés, ils seront totalement dépendants de leur employeur. Et quand on interroge les chauffeurs Uber, on se rend compte qu'il y en a une proportion importante d'entre eux qui tient à cette indépendance, qui tient à cette liberté. Et ce qu'ils reprochent à Uber, c'est de ne pas avoir cette indépendance et cette liberté, mais pour autant, ils souhaitent pas tous devenir salariés, parce qu'ils veulent conserver cette liberté, ils veulent rester en fait auto-entrepreneurs pour un certain nombre d'entre eux. Et donc on est dans une situation qui est compliquée, parce que du point de vue des autorités, on voudrait en faire des salariés comme les autres, mais eux-mêmes finalement ils sont assez attachés à ce qu'on leur avait promis au départ, et ce qui est vrai n'a pas été totalement tenu, qui est cette liberté d'indépendant.
Dominique Méda, une réaction.
Alors... Il y a dans cette, on leur a fait miroiter en effet une liberté totale. On leur a dit qu'ils seraient leur propre patron. Et il faut voir aussi que ces personnes, elles ont souvent du salariat une image assez dégradée. Hein. Le salariat, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un patron et c'est avoir un faible salaire comme chez McDo. Donc le salariat, c'est vrai, ne fait plus rêver. Alors que ça reste une condition, et évidemment tout de même, Robert Castel l'avait montré, hein, qui était pourtant devenu très très désirable. Donc moi je pense qu'il y a là un certain nombre de représentations, peut-être un peu faussées, et puis je dirais le résultat d'une forme d'idéologie, hein, de critique du salariat qui s'est développée depuis une vingtaine d'années, et ces plateformes-là n'y sont pas pour rien. Donc oui, il y a certainement chez une partie des chauffeurs l'envie, et des livreurs, l'envie d'être libre, mais quand on regarde ce qui se passe, et j'ai beaucoup de collègues qui ont regardé ça de très près, je pense à Sophie Bernard qui a étudié les chauffeurs Uber de très 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 près, on voit qu'ils sont, je disais qu'ils sont dépendants, ils sont extrêmement dépendants. La Cour de cassation, dans son jugement du 4 mars 2020, a dit que le statut d'indépendant pour ces personnes était fictif. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'ils ont tous les désavantages à la fois, c'est-à-dire ils vendent leur force de travail, mais ils sont complètement pris, y compris hein, avec les systèmes de géolocalisation, on les débranche, on les incite. Il y a un algorithme qui est complètement incompréhensible.
Oui, je pense qu'il faut insister sur à la fois l'algorithme, la fixation de la course et également la non-liberté sur les prix, alors qui peut être également présente dans d'autres métiers comme le taxi, mais là qui est particulièrement présente, Dominique Méda.
C'était tout à fait ça que mettait en évidence le jugement de la Cour de cassation, c'est-à-dire que ces personnes, elles n'avaient rien d'indépendant. Elles ne pouvaient pas avoir leur propre clientèle, elles ne pouvaient pas fixer leur tarif. Et c'est aussi pour ça, j'aimerais parler de l'exemple californien qui est vraiment, vraiment passionnant. L'État de Californie avait pris une loi pour salarier les chauffeurs VTC. Ce que je trouve complètement extraordinaire, c'est que Uber et d'autres sociétés ont décidé de refuser cette loi. Et ils ont fait un référendum, il y a eu un vote le jour même où on élisait Biden, et ils ont fait une énorme campagne de publicité, y compris en disant aux usagers qu'ils n'auraient plus accès au VTC, en disant aux chauffeurs qu'ils allaient tomber dans les griffes du salariat et que ça allait être horrible. Et en effet, ils ont gagné. Ça veut dire que maintenant, ces plateformes, elles sont en train d'écrire la loi. Et ce que veulent imposer ces plateformes, c'est ce qu'on appelle un tiers statut, c'est-à-dire ni le salariat, ni l'indépendance, mais une espèce de troisième voie, en quelque sorte. D'ailleurs, Uber appelle ça la troisième voie, et c'est une voie qui, d'une certaine manière, pour les plateformes, a tous les avantages des statuts, et notamment de ne pas payer de cotisations sociales et de ne pas assumer la fonction, le rôle, les contraintes, les devoirs de l'employeur. Donc, c'est un très grand danger, ce tiers statut, et il est à craindre que notre gouvernement et notre majorité parlementaire aient bien envie de mettre en place un tel tiers statut en France. En tout cas, c'est en discussion, hein, même si ce tiers statut serait une dégradation par rapport à notre organisation où on est en France, soit salarié, soit indépendant.
Et oui, Frédéric Fréry, parce que c'est une situation qui est effectivement complètement inédite, c'est-à-dire que vous recevez des ordres par un algorithme. Cet algorithme, il est opaque. Vous avez bien du mal, finalement, à percer sa logique, à ceci près que vous êtes obligé d'obtempérer si, évidemment, vous voulez rester dans le système.
Oui, il y a certains chauffeurs Uber, d'ailleurs, qui sont à la poursuite des zones où ça rapporte le plus. Et ces zones, elles varient en temps réel en fonction de la demande. Et donc, eux, ils ont une application et sur leur carte, ils voient du rouge ou du vert. Et là où ça rapporte le plus, où les courses vont rapporter le plus, c'est là où elles rapportent le moins. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que quand ils veulent absolument passer du temps à se déplacer dans les zones où ça rapporte le plus, en fait, ils gagnent moins parce qu'ils ont pris du temps à se déplacer. Donc, il y a des stratégies individuelles qui sont faites par les chauffeurs pour essayer de résister, justement, et de tirer profit de l'algorithme. Là où c'est paradoxal aussi, c'est que Uber, notamment pour éviter une requalification en salariat de fait, a obligé les chauffeurs à travailler aussi pour d'autres plateformes en temps réel. Quand vous prenez un Uber très souvent maintenant, vous voyez qu'il y a deux téléphones sur leur tableau de bord et pas un seul. Et donc, les chauffeurs, ils jouent non seulement à la intérieur du système de Uber, mais ils sont aussi capables de jouer entre les plateformes et pouvoir éventuellement faire passer une course chez l'un ou chez l'autre, ou du moins répondre à la course de l'un et répondre à la course de l'autre. Il y aurait d'ailleurs une idée de modèle économique très intéressante à mon avis, je lance ça à d'éventuels entrepreneurs qui seraient à l'écoute, ce serait de créer une sorte de booking des plateformes, essentiellement pour les chauffeurs. C'est-à-dire une interface qui viendrait se mettre entre les plateformes et les chauffeurs et qui leur permettrait en temps réel de leur dire sur quelle application ils ont intérêt à aller et auprès de quelle plateforme ils ont intérêt à faire passer telle course. Ça peut aussi exister auprès des clients, d'ailleurs, au passage. Enfin, une espèce d'interface qui, en fait, inféoderait les plateformes, ce serait tout à fait amusant à mettre en place.
Mais ce qui veut dire, Dominique Méda, on voit que la logique du salariat, telle que la racontait, par exemple, Robert Castel, donc c'est une sorte de parenthèse. Alors, est-ce que la parenthèse va se refermer pour certains? Est-ce qu'elle va demeurer un modèle majoritaire? La question reste ouverte. En tout cas, on voit qu'on a, avec les travailleurs des plateformes, une évolution profonde dans le rapport au travail. Donc, comme vous l'évoquiez, ni complètement salarié, ni tout à fait auto-entrepreneur, et un statut qui semble proliférer, puisque à la faveur de la crise sanitaire, il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs.
Oui, la crainte qu'on peut avoir, en effet, c'est que ce modèle se diffuse et se diffuse largement parmi les travailleurs aujourd'hui. Et c'est ça qui est inquiétant. Je crois qu'on peut parler de risque de détricotage du salariat. J'ai pas totalement répondu à votre question tout à l'heure, parce que ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut être complètement dépendant en étant prétendument indépendant, mais on peut être relativement autonome en étant salarié. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un lien de subordination, mais vous pouvez organiser des espaces, et d'ailleurs le droit du travail est là pour ça, des espaces où prendre des décisions et avoir des actions tout à fait autonomes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'est pas complètement dépourvu par rapport à cette énorme augmentation ou risque d'augmentation de ces formes de travail, de ces formes de travail hybrides. Il y a eu récemment et il y a encore des propositions de loi sénatoriales qui essayent de proposer. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a une proposition sénatoriale communiste qui proposait tout simplement une assimilation de ces chauffeurs et livreurs aux salariés. Donc, on les met sous la protection en quelque sorte du code du travail et qui faisait également des propositions sur l'algorithme pour ouvrir l'algorithme. Me permettent qu'on regarde ce qu'il y a dedans, et sur la représentation des travailleurs. Et il y a une autre proposition de loi qui a été déposée là par les socialistes, qui, elle, propose à la fois une présomption de salariat, qui propose également une action de groupe, c'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui, la requalification, elle est individuelle. Chaque chauffeur doit aller devant la justice pour se plaindre, et après, quand il obtient la requalification, c'est juste pour lui. Et bien là, cette proposition de loi propose qu'il y ait une action de groupe possible. C'est ce qui s'est passé pour l'Italie. Il y a un juge qui a dit écoutez, chère plateforme, je vous donne 90 jours pour transformer en salarié vos 60 000 livreurs, sinon vous aurez de très lourdes sanctions. Donc on a tout à fait, en ce moment, il y a un bouillonnement, je dirais, de propositions pour essayer d'échapper à cette contamination de l'ensemble du monde du travail par des formes hybrides qui sont extrêmement dangereuses.
Frédéric Fréry, commentaire là-dessus.
Oui, c'est tout à fait juste. Et on voit que en ce moment, ça se passe pays par pays. C'est-à-dire que pour l'Italie, effectivement, il y a un délai qui a été donné. Pour l'Espagne, ça a été décidé que ce sont les salariés maintenant. En Grande-Bretagne, en revanche, c'est le statut indépendant, le troisième statut qui existait déjà avant, qui s'appelle le statut de worker, donc de travailleur, et qui est indépendant, enfin qui est intermédiaire entre le pur indépendant et le salarié. Et finalement, Uber s'arrange très très bien le statut de worker, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils voulaient un petit peu. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs promis en Californie pour obtenir leur référendum.
L'ouverture de l'algorithme. Alors ça, c'est...
Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué, ça. Et puis, de toute façon, ils sont capables de le changer, l'algorithme. Uber a quand même une tradition, historiquement, d'opacité qui est quand même très, très impressionnante.
Toutes ces entreprises.
Oui, tout à fait. Mais Uber, en plus, a une culture qui est quand même, au départ, une culture extrêmement dure. Son fondateur, Travis Kalanick, est quelqu'un qui disait c'est plus facile de demander des excuses que de demander des autorisations. Et donc, c'était, en gros, du gros rentre-dedans, et puis après, on verra s'il se passe des choses. Et ils ont quand même été accusés de multiples choses. Lui-même, d'ailleurs, à titre personnel, elle a été accusée de beaucoup de choses, de divers harcèlements moraux, sexuels, fraudes et tromperies. Cela dit, lors de l'introduction en bourse de 2019, il a récupéré 3 milliards, donc il peut se payer un certain nombre d'avocats. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il reste dans la culture d'Uber quand même des scories qui sont pas très fréquentables. Et donc imaginer que ces gens-là pourraient s'ouvrir très facilement, c'est à mon avis un vœu pieux.
Et toujours dans les arguments qui sont invoqués par ces plateformes, et pas par ces plateformes d'ailleurs, Dominique Méda, il y a l'idée que l'on esquissait tout à l'heure, selon laquelle finalement le salariat est aujourd'hui une forme de travail, ou en tout cas un lien juridique avec son employeur, qui est de moins en moins recherché. Alors à la fois, il y a un intérêt pour ces plateformes de ne pas justement avoir affaire à des salariés, et de l'autre, il y a peut-être une aspiration sociologique pour certains de ces auto-entrepreneurs.
Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une forme moins recherchée. C'est une forme qui est l'objet de critiques parce qu'un certain nombre de personnes veulent promouvoir, sinon l'indépendance, au moins l'auto-entrepreneuriat, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le travail indépendant, c'est très bien. Vous avez votre entreprise, vous avez vos outils de production, vous répondez à des commandes, vous fixez vos prix, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce statut d'auto, de micro-entrepreneur qui a été donc mis en place en 2009 et qui, je dirais, qui franchement pose beaucoup de problèmes. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont transformé immédiatement leurs salariés en auto-entrepreneurs parce que ça vous permet quoi ? Ça vous permet de faire des économies de cotisations sociales. Donc il y a un énorme, vous le disiez tout à l'heure, mais il y a un énorme problème après de financement de la protection sociale. Et Uber disait d'ailleurs que si jamais on les obligeait à avoir des salariés, ça augmenterait leur coût d'exploitation de 30%. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces entreprises, elles exercent une concurrence déloyale absolument invraisemblable par rapport à d'autres entreprises qui, elles, doivent payer ces cotisations sociales. Donc, elles font un véritable dumping social. C'est ça qui est insupportable. Donc, je ne dirais pas que le salariat est moins recherché, mais le problème, c'est que le salariat, lui aussi, s'est dégradé, hein, avec des conditions de travail de plus en plus difficiles, une intensification du travail, des formes de travail atypique et de contrats très, très courts. Donc, c'est vrai que parfois, le salariat peut paraître, aussi le phénomène des petits chefs, donc parfois, le salariat peut paraître un peu inconfortable. Mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le salariat reste aujourd'hui, comme le disait Castel, hein, ce montage de travail et de protection, une formule extraordinaire qu'il faut absolument sauvegarder.
Oui, alors, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne dans les deux sens, parce que s'il y a du dumping social, c'est aussi, Dominique Méda, qu'il y a des services qui sont proposés à moindre coût. Alors, en réalité, ils sont proposés à un coût inférieur que ce qu'ils devraient coûter si les cotisations sociales étaient versées, si les actionnaires ne subventionnaient pas une partie du prix de la course, je parle d'Uber, mais ça aussi, c'est quelque chose avec lequel il faut composer. Il y a des consommateurs qui ne payent pas le prix des véritables services.
Bien sûr, et si vous voulez, je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que ces entreprises, elles tirent profit du travail de personnes. Et donc, on ne peut pas à la fois tirer profit et n'avoir aucune responsabilité. Or, c'est ce qu'elles font. Et elles tirent profit du travail de ces chauffeurs sans assumer leur responsabilité d'employeur et sans payer de cotisations sociales. Et d'une certaine manière, elles rejettent un certain nombre d'externalités sur l'ensemble de la société. C'est ce qui se passe aussi, par exemple, je pense à un bouquin récent de collègues sur les travailleurs de ménage, hein, qui rappelle qu'il y a 2 millions d'agents d'entretien aujourd'hui et qu'on a des phénomènes d'externalisation qui permettent de tirer les prix vers le bas, bien sûr, mais qui ont des conséquences sociales majeures. Par exemple, vous avez des salariés usés à 50 ans et donc c'est l'ensemble de la société qui va payer ses coûts. Donc vous voyez, il y a là la question absolument centrale de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses travailleurs et vis-à-vis des clients et vis-à-vis de l'ensemble de la société. Quand vous tirez les prix comme ça vers le bas, vous maltraitez vos chauffeurs d'un côté, mais aussi vous repoussez vers l'ensemble de la collectivité toute une série de coûts que vous ne prenez pas en charge. Donc là, il y a un véritable problème tout de même.
Frédéric Fréry, ces entreprises, elles vivent, elles profitent du fait que le consentement à payer des consommateurs n'est pas aussi important que le véritable coût de ces services, le fait aussi qu'il y a, eh bien, un certain nombre de contraintes, de décisions contradictoires avec à la fois le choix de modèles vertueux sur le plan écologique et sur le plan social, et puis de l'autre côté, le désir de compresser tous les coûts.
Oui, bah ça c'est une des bases de la stratégie, c'est-à-dire que fondamentalement, si vous voulez réussir, il faut arriver à faire payer au client un prix qui soit largement supérieur à vos coûts, parce que sinon, à terme, ça finit mal. Et ça s'appelle la création de valeur en stratégie, et c'est le fait que bah, vous vous dites « oui, d'accord, c'est cher, mais honnêtement, j'en ai pour mon argent, ça les vaut ». Et ben, le problème, c'est que ces plateformes, elles sont pas dans cette logique-là. Elles sont dans une logique de « c'est toujours moins cher, et regardez comme c'est moins cher, et c'est encore moins cher, et vous en avez encore plus pour encore moins cher ». Et ça, évidemment, ça finit mal au bout, parce que c'est un système qui est structurellement anticoncurrentiel, c'est tout à fait juste. C'est un petit peu, d'ailleurs, historiquement, la logique aussi des compagnies aériennes low-cost. Hein. Vous remarquerez qu'il
y a... Sauf que les compagnies aériennes low-cost, pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles, sont profitables.
Oui, mais vous remarquerez qu'il n'y a jamais deux compagnies aériennes low-cost qui desservent exactement les routes. Elles sont jamais exactement justement sur les mêmes routes. Pour quelle raison? Parce que le client du low cost, en fait, il a une caractéristique distinctive, c'est qu'il a une loyauté nulle. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est le moins cher. Et donc, si vous avez deux sociétés qui proposent le même service sur la même route, il ira forcément sur la moins chère. Et donc, ça ne peut finir que dans deux solutions, qui sont soit une guerre des prix qui sera mauvaise pour tout le monde, soit une entente, ce qui n'est pas bon non plus. Et donc, c'est des systèmes qui sont intrinsèquement pas concurrentiels. Quand l'objectif n'est pas de créer une valeur supérieure au coût, de toute façon, économiquement, c'est une impasse.
Bon, mais alors, Frédéric Fréry, si on poursuit le raisonnement que vous teniez tout à l'heure, si on considère que ces services, ils sont subventionnés par l'actionnaire, puisqu'ils ne sont pas vendus au coût réel. Il y a un moment où les actionnaires se lasseront et à ce moment-là, ou bien le prix de ces services va augmenter fortement. On peut imaginer par exemple pour Uber qu'il rejoigne le prix des taxis, si tant est d'ailleurs que le prix des taxis est supérieur au prix des Uber. Pour d'autres services, pourrait tout simplement disparaître.
Oui, très honnêtement, moi, c'était l'hypothèse que je fais depuis un certain nombre de temps, de dire, mais ça peut pas durer comme ça, on peut pas avoir des puits sans fond éternellement. L'ennui, c'est qu'on est dans un monde où il y a une abondance d'argent absolument délirante. C'est-à-dire que
Alors ça, je pense qu'il va falloir que vous l'expliquiez.
Les robinets d'argent sont ouverts complètement à fond, quoi. C'est-à-dire, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que, maintenant, on est dans des systèmes avec, en plus, on est dans une situation, c'est en train de changer, mais de taux d'intérêt nul, voire négatif.
Donc vous parlez d'abondance d'argent sur les marchés financiers.
Bien évidemment, je veux dire, c'est ce que je veux dire. Et cette abondance d'argent absolument considérable fait que il y a des gens qui sont prêts à miser de l'argent sur des choses qui peuvent être un petit peu plus risquées, surtout que par ailleurs, ce sur quoi on gagnait historiquement de l'argent, qui étaient des obligations d'État ou des choses comme ça, ne rapportent plus rien. Et donc vous avez une bulle, on peut le dire, d'investisseurs qui se disent, bon, ok, pour l'instant ça rapporte rien, mais enfin si jamais un jour ça rapporte quelque chose, ça peut faire une culbute. Et là où c'est quand même stupéfiant, c'est que ça a été le cas. C'est-à-dire que faut quand même se souvenir que Uber est rentré en bourse en 2019. À l'époque, je disais évidemment, mais attendez, c'est n'importe quoi, une entreprise qui n'a jamais été rentable et qui ne le sera jamais, c'est complètement idiot d'acheter les actions. Dans une certaine mesure, j'aurais quand même dû en acheter, parce que depuis, ça a gagné 30%. C'est-à-dire qu'on est sur une bulle qui est stupide, mais on est dans une situation qui devient un peu aberrante, parce que ce qui serait irrationnel, ce serait de ne pas penser que le marché l'est aussi.
Dominique Méda, une réaction par rapport à ça, puisque les règles du capitalisme sont faussées pour les raisons qu'on vient d'évoquer, comment les choses peuvent-elles évoluer ?
Non mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression en effet que tout le monde est dans une sorte de mirage. Le consommateur est complètement pris dans des campagnes de séduction qui lui montrent des images magnifiques et qui lui donnent envie de consommer. Donc même le consommateur est complètement clivé parce que d'une part il a envie de s'acheter ses produits pas chers et faciles à obtenir, puis d'autre part il sait bien que derrière il y a des conditions de travail dégradées. De l'autre côté on a des actionnaires aussi ou même des citoyens qui ne veulent pas investir, mais qui aimerait bien quand même parce qu'il voit qu'il pourrait en tirer un profit. Donc moi, je pense qu'il y a une seule solution possible quand il y a de tels mirages qui se conjuguent, c'est de prendre des mesures publiques et des mesures publiques rapides. Moi, j'aimerais bien qu'on soit pas les derniers en Europe, comme d'habitude, à prendre des mesures après l'Italie, après le Royaume-Uni, après l'Espagne. On a manifestement encore des résistances de notre majorité parlementaire. Je crois qu'on a là des tas d'instruments qui sont à notre disposition. Donc, je pense que des mesures publiques qui, par exemple, reviendraient sur qui instaurerait une présomption de salariat pour les personnes qui travaillent pour ces entreprises, serait vraiment de salubrité publique.
Dominique Méda, Les nouveaux travailleurs des applis, c'est votre livre aux presses universitaires de France. Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager, c'est aux éditions Harvard Business Review.